VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes, le monde aujourd'hui, édition du lundi 3 février 2020. En direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Burkina Faso, 18 civils ont été tués samedi dans le nord par des djihadistes, a annoncé hier le gouverneur de la région du Sahel.
En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara prévoit la victoire du candidat de son parti dès le premier tour de la présidentielle d'octobre, sans pour autant le nommer.
Accord hier à Luanda entre les présidents du Rwanda et de l'Ouganda pour apaiser les tensions à la suite d'accusations mutuelles d'espionnage et d'ingérence politique.
Le bilan du coronavirus est maintenant de 362 morts, dont un premier hors de Chine, ce qui relance les inquiétudes sur la propagation de l'épidémie.
Ici aux États-Unis, coup d'envoi aujourd'hui dans l'Iowa des primaires démocrates pour la présidentielle de 2020.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal.
Nouveau massacre de civils au Burkina Faso. Une vingtaine ont été tués dans la nuit de samedi à dimanche dans une attaque djihadiste à Lamdamol, un village du nord du pays. Le point avec Idriss Fall.
Selon une source sécuritaire, des assaillants lourdement armés et à bord de moto ont littéralement exécuté les habitants de ce village de la commune de Bani dans la province du Seno, dans le nord du Burkina. L'infirmier du centre de santé de Lamdamol est parmi les victimes. C'est la panique dans le village et les populations ont fui. Le 25 janvier, 39 civils ont été massacrés dans le village de Silgadi, dans la commune de Tongomayel, dans la province du Soum. Sous-équipés et mal entraînés, les forces de sécurité burkinabées n'arrivent pas à enrayer la spirale de violence malgré l'aide de militaires étrangers du G5 Sahel et de la force française Barkhane. D'ailleurs, Florence Parly, ministre française des armées, a annoncé hier que l'opération Barkhane va passer de 4500 à 5100 hommes d'ici la fin de ce mois. Selon elle, ces 600 soldats supplémentaires seront accompagnés d'une centaine de véhicules blindés lourds et légers. L'essentiel de ces renforts sera déployé dans la zone dite des trois frontières, le Liptako, qui est à cheval sur le Burkina Faso, le Mali et le Niger.
En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a promis dimanche à Abidjan la victoire dès le premier tour de la présidentielle d'octobre au candidat de son parti, sans pourtant le nommer. Cependant, c'était pendant la cérémonie de présentation de vœux du RHDP, le parti au pouvoir. M. Ouattara a annoncé une réunion en février pour arrêter la date de la désignation du candidat de cette formation. Il a également salué ce qu'il a appelé une composition consensuelle de la commission électorale indépendante, mais l'opposition a une nouvelle fois rejeté samedi la composition de cette commission.
Le Rwanda et l'Ouganda voisins ont conclu hier à Luanda un accord pour échanger des prisonniers afin d'apaiser les tensions à la suite d'accusations mutuelles d'espionnage et d'ingérence politique. Le président rwandais Paul Kagame et l'Ougandais Yoweri Museveni se sont rencontrés en présence de leurs homologues angolais et congolais, Juan Lorenzo et Félix Tshisekedi. Ils se sont engagés à avancer vers la paix, la stabilité, le bon voisinage et le rétablissement de la confiance mutuelle.
Le Soudan a annoncé hier que le chef de son conseil souverain est confié à une visite officielle à Washington, la première invitation adressée par les États-Unis à un haut responsable soudanais depuis plus de 30 ans. Le général Abdel Fattah al-Burhan a reçu l'invitation hier lors d'un entretien téléphonique avec le secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Selon un communiqué du conseil souverain qui n'a pas fourni davantage de détails, le général Burhan a affirmé qu'il va effectuer cette visite prochainement.
Les relations entre Washington et Khartoum se sont détériorées peu après l'arrivée au pouvoir d'Omar el-Béchir lors d'un coup d'État soutenu par des islamistes comme Hassan al-Turabi en 1989. Par la suite, les États-Unis ont multiplié les sanctions contre le Soudan, inscrit depuis 1993 sur la liste des États soutenant le terrorisme. Le fondateur d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden, a vécu à Khartoum entre 1992 et 1996. Washington a levé ses sanctions en octobre 2017, tout en maintenant le Soudan sur sa liste noire.
L'invasion de Criquet sur la Corne de l'Afrique a été déclarée urgence nationale en Somalie. Ces insectes font des ravages sur les cultures dans l'une des régions les plus pauvres et les plus vulnérables du monde. Jean-Roger Bion.
Le ministère somalien de l'Agriculture a déclaré une urgence nationale face à la recrudescence des criquets pèlerins qui sont une menace réelle pour la fragile sécurité alimentaire. Les sources de nourriture pour les personnes et leur bétail sont menacées, a ajouté le ministère. Les criquets pèlerins consomment d'énormes quantités de culture et de fourrage alors que les récoltes sont prévues en avril. Ces essaims de criquets, plusieurs milliards d'insectes, dévastent depuis plusieurs semaines de larges zones d'Afrique de l'Est, déjà frappées par une sécheresse et des inondations. Des épais nuages de criquets affamés se sont répandus depuis l'Éthiopie, la Somalie jusqu'au Kenya, où la FAO a estimé à la fin janvier qu'un seul de ces essaims couvrait une surface de 2400 km².
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
L'annonce dimanche du premier décès hors de Chine lié au nouveau coronavirus survenu aux Philippines relance les inquiétudes sur la propagation de l'épidémie. Elle a fait 361 morts en Chine où la métropole de Wenzhou a rejoint la liste des villes confinées. De nouveau, Jean-Roger Bion.
Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, les Philippines ont signalé dimanche la mort à Manille d'un Chinois de 44 ans, originaire de la ville de Wuhan, où l'épidémie de pneumonie virale a démarré en décembre. Il s'agit du premier décès signalé en dehors de la Chine, a déclaré le représentant de l'OMS aux Philippines. Cette annonce survient alors qu'un nombre croissant de pays ferme leurs frontières aux personnes venant de Chine. Le virus s'est propagé dans 24 pays. Les pays du G7 vont se concerter pour apporter une réponse uniforme face à l'épidémie, a annoncé dimanche le ministre allemand de la Santé. L'OMS a classé jeudi l'épidémie comme une urgence de santé publique de portée internationale et de nombreux pays ont annoncé des mesures exceptionnelles. Les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Irak et Israël, notamment, ont interdit l'entrée sur leur territoire aux étrangers s'étant récemment rendus en Chine. Pour leur part, la Grande-Bretagne, la Russie et la Suède ont annoncé leur premier cas confirmé durant le week-end. En Chine, selon un dernier décompte annoncé dans la nuit de dimanche à lundi, le nombre de morts s'élevait à 361, dont 56 décès lors de la journée de dimanche. Le confinement a été par ailleurs étendu à Wenzhou, ville portuaire de plus de 9 millions d'habitants, située à quelques 800 km à l'est de Wuhan.
L'Iowa sera ce soir le premier État américain a voté dans les primaires démocrates. Hier, les candidats ont multiplié les meetings et interviews pour tenter de convaincre qu'ils sont chacun le plus apte à battre le président sortant, le républicain Donald Trump, en novembre. De nouveau, Idriss Fall.
Sur les 11 candidats dans la course à l'investiture démocrate, 4 ont été ces derniers mois à la tête des sondages. Le sénateur socialiste Bernie Sanders, suivi respectivement de l'ancien vice-président Joe Biden, du jeune ex-maire Peter Buttigieg et de la sénatrice progressiste Elizabeth Warren. La sénatrice modérée Amy Klobuchar a récemment grimpé dans les intentions de vote. Chacun dit à la base démocrate qu'il est le meilleur candidat pour battre Donald Trump en novembre prochain. La campagne se joue sur le terrain, électeur par électeur. Des milliers de bénévoles ont fait du porte-à-porte, téléphoné et planté des pancartes dans la neige. Le vote ne se fera pas par bulletin, mais lors d'assemblées d'électeurs ce soir, dans environ 1700 salles où ils se regrouperont par candidat. Bernie Sanders, Elizabeth Warren et Amy Klobuchar doivent rattraper le temps perdu car ils étaient au Congrès pour le procès de Donald Trump. Son acquittement se profile au Sénat lors du vote final à son procès mercredi, au lendemain de son discours traditionnel sur l'état de l'Union.
Et ajoutons que des sénateurs républicains se sont justifiés dimanche en arguant que le président Trump avait mal agi, mais pas au point de devenir le premier président américain de l'histoire à être démis de ses fonctions. M. Trump est accusé d'avoir demandé à l'Ukraine d'enquêter sur son rival démocrate Joe Biden et d'avoir retenu l'aide militaire à Kiev pour faire pression.
En Irak, des manifestants à Bagdad et dans plusieurs villes du Sud ont exprimé hier le rejet du premier ministre nommé la veille, et ce malgré les promesses de répondre aux demandes clés du mouvement de contestation qui agite le pays depuis 4 mois. Il s'agit de l'ex-ministre des Télécommunications, Mohamed Alaoui. Pour les protestataires, le successeur du premier ministre démissionnaire, Adel Abdel Mahdi, ne doit pas être issu du sérail politique qu'ils accusent de corruption et d'incompétence.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco et qui abonne.
Le Royaume-Uni est à la recherche de nouveaux partenaires commerciaux. Le Brexit met fin à 47 ans de vie commune avec l'Union européenne. Londres s'est lancé voilà 2 ans dans une offensive tout azimut en direction de l'Afrique qui a abouti à un récent sommet Royaume-Uni-Afrique avec la participation de plus d'une vingtaine de pays africains. Le président burkinabé Roch Marc Christian Kabore a inauguré jeudi à Koudougou une usine d'égrenage de coton biologique présentée comme la première en Afrique de l'Ouest, en marge du Salon international du coton et du textile. Cette usine pourra transformer 130 tonnes de coton graines en fibres par jour et permettre l'automisation des femmes qui représentent 58% des employés de ce secteur. Le secrétariat général de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale annonce l'organisation d'une table ronde à Brazzaville pour développer le secteur des routes et des transports. Les projets majeurs d'infrastructure dans la région concernent la République centrafricaine, le Tchad, la République du Congo et la République démocratique du Congo. Dans son rapport 2020 sur les perspectives économiques en Afrique, la Banque africaine de développement se montre relativement optimiste pour le continent. La BAD a dû revoir cependant à la baisse le taux de croissance dont elle espérait l'an dernier qu'il atteindrait 4% en 2019.
Les sports à présent avec Élisée Ongpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Commençons par le football pour dire que la CAF reprend sa liberté par rapport à la FIFA.
Oui, c'est à l'issue de la réunion du comité exécutif de l'instance du foot africain tenue hier à Rabat au Maroc. Un séminaire sur le développement du foot africain et à la fin, la Confédération africaine de football à travers un communiqué a noté l'arrivée à terme de la coopération CAF-FIFA, c'est-à-dire en clair. La fin des travaux débutés en août sous la supervision de la secrétaire générale de la FIFA, la Sénégalaise Fatma Samoura. Elle devrait procéder à un audit de la CAF et émettre des propositions de réforme, des réformes au niveau de l'arbitrage, l'infrastructure, la compétition et la gouvernance.
Et lors de ce séminaire, le président de la FIFA, Gianni Infantino, propose d'organiser la CAN tous les 4 ans.
Le patron de la FIFA évoque des raisons économiques, alors qu'en janvier, la CAN a de nouveau subi une modification après l'annonce qu'elle se jouerait au Cameroun en 2021, non plus en été comme celle de 2019, mais en hiver comme les éditions précédentes. Gianni Infantino vient de faire une nouvelle proposition qui pourrait tout chambouler. Cette idée devrait être étudiée dans les prochaines semaines alors que la CAN 2021 au Cameroun commence à se préparer. À noter que cette modification pourrait cependant ne pas intervenir avant 2027 puisque les éditions précédentes sont déjà attribuées à des pays organisateurs. 2023 à la Côte d'Ivoire et 2025 à la Guinée.
Sur le terrain, à présent, on connaît les 2 derniers qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions.
Et ça s'est joué dans le groupe A. Il s'agit de l'Étoile du Sahel et Al Ahly du Caire. Les Tunisiens, vainqueurs 2-0 des Zimbabwéens du FC Platinum, terminent en tête du groupe devant les Égyptiens qui ont ramené le nul 1-1 de leur déplacement au Soudan face à Al Hilal. Pour la première fois de l'histoire de la compétition, les 8 clubs à atteindre les quarts de finale ont remporté au moins une fois le trophée.
On connaît également les 4 derniers qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de la Confédération.
On peut citer les Marocains de Berkane et les Zambiens de Zanaco dans le groupe C après leur match nul de 1-1. Les Libyens d'Al-Nasr de Benghazi dans le groupe B, malgré leur défaite 2-0 devant les Guinéens de Aurora. Et puis, les Nigériens d'Enimba qui ont eu raison des Ivoiriens de FC San Pedro sur la marque de 5-2 dans le groupe D. À noter que le tirage au sort des quarts de finale de ces 2 compétitions aura lieu ce mercredi au Caire. Et puis, du basketball pour finir, la NBA et avec vous, les résultats de la nuit.
Détroit et Denver, 128-123. Houston et la Nouvelle-Orléans, 117-109. Milwaukee et Phoenix, 129-108. Toronto et Chicago, 129-102. Et pour ceux qui s'intéressent au football américain, Kansas City et son talentueux quarterback Patrick Mahomes ont remporté le 54e Super Bowl de la NFL, le 10e de l'histoire de la franchise, aux dépens de San Francisco, 31-20, dimanche à Miami, au terme d'une finale au suspense haletant.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Seloudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. L'administration Trump a annoncé la semaine dernière des interdictions de visa pour les ressortissants de 6 autres pays, dont le Nigeria, l'Érythrée, le Soudan et la Tanzanie en Afrique. Ces restrictions entreront en vigueur le 21 février. Selon Washington, les pays visés n'ont pas rempli les critères en matière de sécurité. Les réactions au Nigeria même, avec notre correspondant à Abuja, Gilbert Tamba.
Le président nigérien Mohamed Bouhari, dans un tweet samedi, a annoncé la création d'une commission présidée par le ministre de l'Intérieur pour étudier et répondre aux exigences américaines. Dans les rues, c'est l'incompréhension pour la plupart des Nigériens face à cette décision du président Donald Trump. Sam Amadi est professeur à Bayes University d'Abuja et ancien président de la commission de régulation de l'électricité du Nigeria.
Je pense que tout cela est un peu confus. Essentiellement, la position du gouvernement américain est que ça a trait au visa d'immigration pour ceux qui veulent vivre de façon permanente aux États-Unis. Mais si vous revenez un peu en arrière, quand le président Trump est arrivé au pouvoir, il avait mis sur sa liste noire certains pays à prédominance musulmane ayant connu des faits de terrorisme, et le Nigeria était sur cette liste.
Depuis 2015, après l'arrivée au pouvoir de l'actuelle administration, certaines organisations de la société civile avaient à plusieurs reprises réclamé l'interdiction d'accès aux États-Unis de certaines catégories de Nigériens et de politiciens qui minent le processus électoral et démocratique du pays. Ayodayo Atoye est activiste et membre de la Coalition pour la défense de la démocratie au Nigeria.
En tant que coalition, nous avons écrit à plusieurs reprises au gouvernement américain pour lui demander de ne pas accorder de visa à certaines catégories de Nigérians, les politiciens qui sabotent nos élections et d'autres officiels du gouvernement qui oppriment les Nigérians et violent les droits de l'homme. Nous n'avons pas cessé de réclamer cela.
Certains Nigériens accusent le gouvernement fédéral de négligence et appellent les autorités à revoir leurs copies.
C'est le moment pour nous de nous asseoir et réorganiser notre système d'information. Tout est désorganisé au Nigeria. Personne ne sait combien de gens vivent à Abuja. Personne ne connaît la population totale de mon village. Vous savez, nous avons une commission en charge de la population, mais je ne pense pas qu'elle fait son travail. Donc, je n'accuse pas l'Amérique. L'Amérique veut se sentir en sécurité.
Notre gouvernement aussi doit mettre ses papiers à jour. Nous devons être conformes. Nous devons aussi régulariser parce qu'il y a des protocoles entre pays. Et si nous ne respectons pas ces protocoles, je ne vois pas comment un autre pays peut nous permettre d'entrer chez eux comme ça. Donc le Nigeria doit aussi mettre ses dossiers en ordre.
300 000 Nigériens vivent aux États-Unis, selon le Washington Post. Les Nigériens attendent de voir comment le gouvernement fédéral entend résoudre cette crise, même si la présidence dit rester déterminée à maintenir des relations productives avec les États-Unis et d'autres alliés internationaux, en particulier sur les questions de sécurité mondiale. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Les Camerounais vont élire le 9 février leurs nouveaux députés et conseillers municipaux. Alors que la campagne électorale entre cette semaine dans sa dernière ligne droite, les populations des quartiers enclavés de Yaoundé réclament de meilleures conditions de vie. Elles promettent un vote sanction en dénonçant le manque de routes, d'éclairage public et d'eau courante. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Jules Tap.
Je ne vote pas ceux qu'on les met là. Chacun cherche seulement son compte après qui.
Maurice, la cinquantaine, fait partie de ces électeurs en colère dans le 5e arrondissement de Yaoundé. Comme lui, les résidents du quartier Nkolmé 5 dénoncent l'absence d'infrastructures routières depuis plus d'une vingtaine d'années.
Ceux que nous avons votés au passé nous ont promis qu'ils devaient bien arranger ces routes. Nous roulons toujours sur la même poussière. Nous voulons voter quelqu'un qui puisse changer et nous mettre aussi à l'aise.
Dernièrement, on a envoyé les gens, on dit qu'on va goudronner la route. On a fait les petits carnivaux en diminuant même la largeur de la route. Ils ont versé à terre et parti jusqu'aujourd'hui.
À cause du mauvais état de la route, le transport par moto s'est imposé à la plupart des résidents au quartier Nkolmé 5. Mais l'activité a également été impactée. Les conducteurs de moto, qui constituent un électorat très courtisé en période de campagne, sont eux aussi mécontents.
Nous sommes tous malades. Regardez au carrefour, il n'y a pas de motomane. Tous sont les nids, parce que les cassis. Je dis qu'on ne peut pas compter les motomanes qui sont aveugles ici.
Les routes, il n'y en a pas. Je ne sais pas. C'est une malédiction, mais je pense que c'est bien de donner la chance à ces jeunes candidats, parce qu'ils connaissent nos problèmes que nous vivons.
Quelques jours avant le lancement de la campagne électorale, sentant la colère monter, le gouvernement a annoncé le début imminent des travaux de bitumage de certaines voiries urbaines en état de dégradation à Yaoundé, notamment dans le 5e arrondissement. Courtès Kecha, ministre de l'Habitat et du Développement Urbain.
Le chef de l'État a écouté les appels des populations de Biémassi, de Yaoundé 5. Nous avons fait le tour de nombreux tronçons que le chef de l'État nous a instruits de bitumer afin de faciliter la mobilité urbaine à ces populations-là.
Le déficit d'infrastructures routières, l'absence d'éclairage public et de l'eau potable dans plusieurs quartiers de Yaoundé sont des arguments que les partis de l'opposition utilisent désormais lors de leurs meetings contre les élus locaux sortants afin de gagner les voix des électeurs. Aloïs Parfum-Vou, mes candidats députés du SDF, le Social Démocratique Front, dans le département de Foundia, Yaoundé.
Ça fait 40 ans, les conseils municipaux sont du RDPC, les députés du RDPC, les sénateurs du RDPC, c'est à eux qu'ils imputent cette responsabilité.
Armand Okol, candidat à la députation du Parti Camerounais pour la Réconciliation Nationale, critique lui aussi les élus locaux sortants du parti au pouvoir.
C'est une stratégie voulue du pouvoir de les décourager. Ça fait que eux, du pouvoir, ils maintiennent leur électorat alors que ces personnes qui ont des récriminations se mettent à l'écart.
Selon les candidats du parti au pouvoir, le RDPC, les grands travaux de réhabilitation des voiries urbaines à Yaoundé vont débuter au plus tard en juin prochain, notamment dans le 5e arrondissement Yaoundé. Emmanuel Jeluntap, VOA Afrique.
À Ouagadougou, au Burkina Faso, on voit des débits de boissons ou des lieux de commerce à côté d'établissements scolaires. Une situation qui n'est pas sans conséquence sur la quiétude des élèves, mais également de leurs parents qui souhaitent que la municipalité mette de l'ordre aux abords des lycées et collèges. Notre correspondant à Ouagadougou, Kader Traoré.
Ouagadougou, il est 10h. Nous faisons la ronde des arrondissements 3, 10 et 11 de la capitale burkinabé. C'est l'heure où les élèves prennent leur pause. C'est également l'heure où les débits de boissons ouvrent leurs portes avec toute l'animation musicale qui va souvent avec. Quant aux autres établissements commerciaux, ils ont soulevé les grilles depuis quelque temps. Le hic, c'est que certains jouxtent les écoles et autres lieux d'éducation des enfants sans que cela ne dérange leurs tenanciers. Or, cette proximité peut avoir de lourdes conséquences sur le comportement et le cursus scolaire des élèves. Hector Raphaël Ouedraogo est le président de l'Union nationale de l'Association des parents d'élèves du Burkina.
Nous ne sommes pas contents en ce sens que ce que nous avons vu laisse vraiment à désirer. Nous avons visité 3 établissements et nous avons vu qu'autour donc de tous ces établissements, il y a des installations de petits commerces. Vous savez que ces installations nuisent à l'éducation donc de nos apprenants, de nos enfants. Et nous souhaiterions à partir donc de maintenant travailler à assainir ce milieu scolaire au plus de quiétude et de paix.
Ces établissements anarchiques, pour la plupart, n'ont pas reçu d'agrément d'implantation. Elles évoluent dans l'irrégularité.
Ce que nous déplorons, c'est qu'effectivement, il y a quelques installations, j'allais dire un peu anarchiques, parce que très souvent, ce sont des installations qui ne sont pas autorisées.
Martin Kabore, proviseur du lycée municipal de Bogodogo.
Par rapport à cette situation, nous pouvons dire que comparativement à certains autres établissements, chez nous, ce n'est pas encore assez criant, mais il y a quand même quelques installations. Il y a par exemple un débit de boisson où il y a de l'alcool qui est vendu. Il y a aussi des kiosques qui sont installés où on vend de la nourriture dont les conditions d'hygiène ne sont pas maîtrisées. Probablement même qu'il y a d'autres produits, peut-être illicites, qui peuvent être vendus là-bas, que nous ne maîtrisons pas.
Les détenteurs de ces commerces sont conscients que la situation géographique de leur boutique dérange le bon déroulement de l'activité scolaire. Ils sont d'ailleurs prêts à changer d'emplacement à condition que la municipalité leur trouve de nouveaux sites. Ablassé Sana, gérant d'une quincaillerie à proximité du lycée Rim Vougré.
C'est vrai que le maire nous a dit de changer de place. Mais si nous quittons les lieux, quelle autre place vont-ils nous donner? C'est grâce à cette activité que nous parvenions à entretenir nos familles et à scolariser nos enfants. Si nous ne travaillons pas, qui va s'occuper de nos enfants? L'administration va-t-il accepter de les scolariser gratuitement? Que vont-ils manger? Où allons-nous partir dans cette situation d'insécurité dans le pays? C'est difficile. Le pays est chaud. Si c'est sûr qu'on va nous donner de nouvelles places, nous sommes partants. Nous allons déménager.
Soucieux de l'avenir des enfants dans la capitale burkinabé, l'Union nationale de l'association des parents d'élèves du Burkina dit avoir demandé incessamment aux autorités communales de prendre des mesures urgentes pour débarrasser les alentours des établissements des installations anarchiques. Elle souhaite également que prennent fin les commerces des produits tels que la cigarette et les boissons alcoolisées dans le sillage des écoles. Kader Traoré, Ouagadougou pour VOA Afrique.
Au Sénégal, des citoyens dénoncent de nouvelles pratiques en cours dans l'immobilier à Dakar, la capitale. Un nombre croissant de nationaux disent se heurter au refus de propriétaires de leur louer des logements, préférant les locataires étrangers. De Dakar, notre correspondant Sédina Abagué.
Dans la capitale sénégalaise, la grogne monte de plus en plus chez les citoyens désirant louer des maisons, des appartements ou même des chambres. La faute à une discrimination au logement. Abdou, locataire aux HLM Paris, dans la banlieue dakaroise, témoigne.
Beaucoup de Sénégalais louent leur maison à des étrangers, particulièrement les Nigériens. Oui, on a beaucoup de difficultés par rapport à cela. Surtout avec les agences, on a beaucoup de problèmes par rapport à cela, parce qu'ils n'ont aucun pitié envers nous.
Pointé du doigt, les agences immobilières refusent de porter le chapeau. Pour eux, certains Sénégalais sont les seuls responsables de cette situation car ils causent souvent d'énormes problèmes aux bailleurs. L'agent immobilier Alpha Cissé explique.
Les locataires sénégalais, souvent pour payer, on les assigne en justice et la loi les protège tellement que les propriétaires en ont marre de courir derrière leur argent, mais aussi les faire sortir, c'est une longue procédure.
Ces propos sont confirmés par les bailleurs eux-mêmes et au-delà de l'aspect financier, les propriétaires de maisons se plaignent du comportement de certains locataires locaux qui ne respectent pas leur contrat, tandis que les étrangers sont généralement irréprochables. Sédou Sidi Bé est propriétaire de plusieurs maisons dans la banlieue dakaroise.
Bon, Sénégalais, notre société.
Les Sénégalais sont difficiles à gérer. Ils perturbent et quand tu leur interdis quelque chose, ils refusent d'obtempérer. Même pour payer les factures, ils refusent alors que les étrangers obéissent aux normes de la maison et ils payent à temps leur loyer. Ils n'ont aucun problème avec qui que ce soit. Ils restent dans leur coin et font tout comme il se doit. Certains ont voulu que je mette les étrangers dehors, mais j'ai refusé parce qu'ils sont corrects et respectueux des règles.
Pris au milieu de cette politique, les locataires étrangers préfèrent faire profil bas et mettre en avant la teranga sénégalaise. Anthony est un Nigérian établi au Sénégal depuis plusieurs mois et pour lui, c'est l'intégration africaine qui justifie leur présence.
Les Sénégalais sont vraiment gentils, même si des fois la langue parlée cause certaines difficultés puisqu'ils ne comprennent pas l'anglais. Mais je pense qu'ils sont gentils parce qu'ils essayent quand même de m'aider à m'intégrer facilement. Je me suis même fait des amis. Nous sommes tous pareils. On est tous de l'Afrique de l'Ouest. Nous nous plaisons ici et on fait de petits business. Je pense aussi que les Sénégalais qui vivent au Nigeria sont dans les mêmes conditions.
Même s'ils se défendent de stigmatiser les étrangers vivant parmi eux, certains Sénégalais se plaignent du favoritisme à l'égard de ces derniers qui bénéficient plus facilement de logements. Pour les locaux, c'est une situation inacceptable et imputable aux agences immobilières. Ces dernières estiment quant à elles que les étrangers bénéficient d'un meilleur traitement car ils sont plus prompts à respecter leurs engagements. À Dakar, Seydina Abagueye pour VOA Afrique.
Bonjour, c'est Yacouba Ouidraougo. Tout le lundi soir, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs. Rendez-vous en direct dans Sporama à 19h temps universel. pour participer, c'est très simple. Vous pouvez appeler en direct ou laisser vos commentaires et numéros de téléphone sur notre page Facebook. Nos spécialistes du sport sur le continent sont là pour vous apporter leur éclairage. À très vite sur le terrain de VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console d'Ariel Smith, merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.